Je vais souvent faire référence à Desplechin est un réalisateur, c'est un auteur même. Il faudrait travailler cette question, mais c'est pas le lieu. Mais en tout cas, il se pense comme tel et il est très prolixe. C'est-à-dire que vraiment, il a toujours beaucoup de choses à dire sur son travail. Je vais souvent faire référence à ce qu'il a pu dire, mais je vais quand même m'en détacher aussi régulièrement, parce que je pense que parfois, soit il ment, soit il se trompe, mais ou les deux. Et c'est indiscernable. Donc je vais à la fois me référer à lui et sans doute le contourner un peu. Alors, en l'occurrence, à un critique, Emmanuel Burdeau, de fait, qui affirmait que l'un des protagonistes de son film « Comment je me suis disputé » s'apparentait davantage, je cite, « à un fantasme qu'à un personnage », Desplechin répondait, je cite, « Je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de psychologie pour créer un personnage. On invente un nom propre et on pose que cela suffira. Le nom apparaît sur une plaque avec une ponctuation musicale. Et déjà, le personnage existe. Ensuite, il traverse le film en rechignant, je cite toujours en participant le moins possible, mais c'est bien ça qui le constitue en personnage. L'acteur qui joue ne joue pas la psychologie. Au fond, les personnages de Desplechin sont essentiellement des êtres en devenir, où émerge imprévisibilité, apparence marquée d'intermittence, incertitude. Au fond, les personnages chez Desplechin sont des agencements composites. Où s'indifférencie l'acteur, son corps, le protagoniste, autrement dit, où s'entremêle la vraisemblance d'un récit et l'inattendu d'un devenir, où se confondent à la fois l'idée d'un être et, disons, la contingence d'un devenir irrésolu. Au fond, les personnages de Desplechin sont toujours marqués d'apparition et d'absence. Or, Desplechin ne cesse pas d'inventer des dispositifs qui mettent en question la représentation en général et la représentation du personnage en particulier. Il ne cesse pas de mettre en crise la consistance du personnage cinématographique. Au fond, les personnages chez Desplechin sont toujours inachevés, bancals, insaisissables, et deviennent au fond des sollicitations énigmatiques, des interrogations plastiques, explicites ou pas, hein, au fond. Ça va même plus loin, ces mêmes personnages sont comme étourdis par leur difficulté à être, leur incertitude à exister. Cela va s'amplifier au fur et à mesure de son œuvre par justement le retour de certaines figures dans le cinéma de Desplechin. Au fond, le devenir sériel des personnages de Desplechin, alors maintenant ça fait presque 25 ans, enfin un peu plus que 25 ans qu'Arnaud Desplechin déploie son œuvre, le devenir sériel va produire quelque chose d'assez singulier. On va voir des figures revenir d'abord sous la forme onomastique, et j'y reviendrai, hein, Paul Dédalus, alors on peut en penser ce qu'on veut, mais j'aurai à justifier ma position tout à l'heure, mais on peut en penser ce qu'on veut, on peut considérer que chaque film c'est un autre Paul, mais on a de bonnes raisons de penser que c'est le même, et justement ce qui m'intéresse, et c'est un peu l'objet de mon intervention, c'est que c'est le même et c'est pas le même. C'est vraiment ce que j'aurai à travailler. Alors je cite Paul, mais il y a bien sûr, je vais axer mon intervention sur trois personnages, trois noms. Trois figures onomastiques, Paul Dédalus, Ismaël et Esther. Voilà. J'aurais pu le faire vraiment, le bestiaire des Plechinesques est gigantesque, j'aurais pu le faire sur presque 20 figures, je le ferai que sur trois, celles qui m'intéressent le plus et surtout celles que je peux faire intervenir dans le temps qui m'est imparti. Or, au fond, le devenir sériel de ces personnages crée des béances. J'aurais expliqué ce que j'entends par béance, mais disons ceci. Paul Dédalus a au moins 4 ou 5 biographies. Et ce sont des biographies contradictoires, qui ne peuvent pas aller ensemble. J'en passerai après pour justifier ce que j'entends par contradictoire, hein, un peu plus tard. Or, je maintiens néanmoins que ces biographies contradictoires forment ou tissent un personnage, néanmoins, avec une identité. Ça revient à ce que Hélène soulignait hier en fin de journée. La question, c'est celle de comment on épuise les possibles. Et je trouve que Desplechin déploie une réponse très singulière. Effectivement, quels sont les possibles d'un personnage? Alors, moi, je vais très deleuzien, je vais refuser la notion de possible, je vais parler de virtualité, je justifierai ma position après. Il invente une réponse très singulière, c'est-à-dire une réponse plastique à la question qu'est-ce que l'identité d'un personnage quand cette identité paraît composite, diffractée, contradictoire? Hier, tu parlais de cubisme. Eh ben, effectivement, on pourrait presque convoquer, et preuve à l'appui, Desplechin pense ces personnages sous la forme d'une référence cubiste. Comment, au fond, il invente un personnage, une unité. Alors, utilisant cette formule, je pense donc, il y a deux philosophes qui ont inspiré, qui énervent mon propos. C'est Aristote et Leibniz. mais un Leibniz relu par Deleuze. Donc j'essaierai de justifier ça, parce que Leibniz dit « une chose n'est vraiment que si elle est une ». Il appelle ça la monade. Eh ben, je crois qu'au fond, Desplechin dit cela aussi. Une chose n'existe que si elle est une, sauf que le « une » chez Desplechin est traversé de différence, traversé de dissemblance. Voilà, donc maintenant, je peux formuler aisément mon hypothèse. Hein, l'hypothèse qui anime ma communication consiste à interroger ce que la sérialité des personnages dans le cinéma de Desplechin doit à ce que l'on pourrait nommer une poétique baroque. Ce qu'elle conduit, au fond, cette sérialité, à repenser du statut des personnages et de la relation paradoxale d'intimité que les spectateurs entretiennent avec ces personnages qui sont à la fois infiniment eux-mêmes et au fond infiniment différents d'eux-mêmes. Au fond, toujours différenciés, on devrait presque dire, en pensant à Leibniz, infinitésimalement, dans le sens où c'est Leibniz qui a inventé le calcul différentiel. Quoi. Vraiment, c'est en ce sens-là que je pense le personnage. En fait, il me semble qu'on peut proposer la réponse suivante, la solution que propose Desplechin, c'est de répondre à la question que se posent tous les personnages, une question sceptique, c'est-à-dire, est-ce que je suis, est-ce que le monde existe, au fond mais la réponse que je vais proposer n'est pas complètement celle que choisit Desplechin. Enfin, à la limite, je vais faire jouer les films de Desplechin contre ce qu'il dit. Et j'essaierai de montrer que sa réponse est en fond une réponse qui relève de l'histoire de l'art et pas complètement de la stratégie que lui croit voir du côté de Stanley Cavell. Il cite toujours, je ne suis pas du tout d'accord avec lui au fond. Et j'essaierai de montrer qu'il se trompe un peu. Enfin, bon, je ne suis pas sûr que j'oserais lui dire, mais de fait, je le pense. Alors, je connais pas votre connaissance de l'œuvre de Desplechin. Donc, très rapidement, la filmographie. Encore une fois, je vais pas utiliser tous les films. Le Paul Dédalus dont il était question apparaît pour la première fois dans Comment je me suis disputé. Et puis ensuite, on le revoit. Il ressurgit dans Roi Zérène, dans Un conte de Noël, dans Trois souvenirs de ma jeunesse. L'autre figure d'Ismaël apparaît pour la première fois dans Un conte de Noël et on le revoit dans Roi Zérène, pardon, et puis on le revoit depuis dans Les fantômes d'Ismaël. Et Esther est un personnage qui traverse le film et on verra que qui traverse la plupart des films et on verra que même Esther Kahn, à mon avis, parle de la même Esther. Ça aussi, j'aurai à justifier un peu plus tard. Alors, je vais justifier l'idée que les biographies sont contradictoires. Paul Dédalus. Pas les mêmes acteurs, pas les mêmes figures, pas les mêmes corps, pas les mêmes apparences. Amalric, il est normalien, il a fait de la philosophie, il veut se séparer depuis 10 ans d'Esther, il n'y parvient pas. Il y parvient bien, mais jusque-là, il n'y est pas encore parvenu. Ça, c'est donc la première fois que Paul apparaît, les premières fois où Paul apparaît. On voit Paul plus tard, Trois souvenirs de ma jeunesse, d'autres figurations de Paul, d'autres corps, et au fond, d'autres biographies. Il est pas juif. Il se rêve juif d'une certaine manière. Alors lui, il ne va pas devenir philosophe, il va devenir anthropologue, ethnologue, il va faire des études plus laborieuses que le normalien qu'on a vu tout à l'heure. En d'autres termes, Paul Dédalus, c'est à la fois, et je maintiens cette idée, un philosophe normalien qui veut se débarrasser de sa petite amie. Et ce Paul-là, il est ethnologue, il fait ses études à Paris, et lui ne veut jamais se séparer de cette petite amie. La petite amie s'appelle, dans les deux cas, Esther. En d'autres termes, alors je pourrais multiplier comme ça les différenciations et la même thé pour autant. Dans tous les cas, on peut commencer à entrevoir l'idée, ils sont contradictoires. Autrement dit, et j'en passe un peu par Aristote, mais je préciserai, deux propositions qui s'opposent ne peuvent pas être vraies ensemble, c'est la définition même de la contradiction. Donc Paul, pour l'instant, c'est un être contradictoire. Alors il n'est pas le seul, Ismaël dans Roi Zérène, première apparition. C'est Ismaël dans les fantômes d'Ismaël. Où, je sais pas, merci Hélène. C'est la première fois où on voit la figure d'Ismaël. Là aussi, les contradictions sont nombreuses. Il y en a une que je note, c'est que Ismaël de Roi Zérène n'a pas adopté d'enfant. À la fin du film, il refuse d'adopter un enfant, alors que ce même Ismaël-là va raconter dans la diégèse du film quelques jours après qu'il a déjà adopté un enfant, ce qui n'est pas vrai. Bon, a priori, c'est le même, mais ce n'est pas le même, encore une fois. Enfin, Esther, alors j'aurais pu en ajouter plein, voilà toutes les figurations d'Esther, et il y en a d'autres, et je maintiens qu'il y a un lien très fort entre Esther, qu'on voit dans les films-là, et Esther Kahn, même si le film se passe avant, j'aurais à travailler sur cette question de problème de chronologie. Enfin, je pense en termes de survivance, là, pour le coup. Donc, maintenant que j'ai fait ces présentations un peu trop rapides, j'aimerais faire le détour par une idée fondamentale que je tire d'Aristote, chapitre 9 de l'interprétation. C'est un chapitre très pénible, très difficile à lire. Mais dans ce chapitre 9, Aristote invente la notion de futur contingent. Alors, je cite Aristote, ça sera très facile à expliquer. Prenons un exemple simple. Il est vrai que, il est vrai maintenant, enfin, c'est l'alternative qui est vraie, que dans 3 heures, je prendrai ou que je ne prendrai pas le train pour Paris. D'accord ? Là où, ça, c'est nécessairement vrai. L'une des deux propositions est vraie. Mais ça veut dire que aucune des deux ne l'est nécessairement. Pour l'instant, on ne peut pas savoir. Ce qu'il nous le dira, c'est si dans 3 heures, je suis à la gare. J'aurais pris ou je n'aurais pas pris mon train. Eh bien, le problème, il me semble que toute l'œuvre de Desplechin doit être interprétée à partir de ça. Son œuvre se dessine sur la crête de cette alternative non décidée. Tous les personnages, on peut dire que c'est ça son esthétique, sa poétique, elle relève de ça. Rester sur cette crête où une alternative est vraie absolument, c'est-à-dire de propositions contradictoires. Je crois que ces personnages relèvent de ça. Alors, je vais vous montrer maintenant... alors voilà, mon hypothèse, je ne suis pas le seul à le penser, ou plutôt, je crois que je suis le seul à l'avoir pris au sérieux. Pour l'instant, je n'ai rien lu autre. Je vais reprendre Marc Cérezuelo à la sortie de Trois souvenirs de ma jeunesse. Dans Positif, numéro 651, il écrit « Paul n'est plus philosophe, et nous sommes en apparence bien loin des couloirs de la fac de Nanterre, de la critique du scepticisme, des anciens normaliens, de la piscine de Pontoise et de Frédéric Rabier. Il est, et là, c'est ce qui m'intéresse, et il écrit entre parenthèses, désormais, point d'interrogation, anthropologue. C'est ce désormais, point d'interrogation, qui m'intéresse. Comment c'est possible qu'un personnage soit désormais, point d'interrogation, anthropologue? S'il était philosophe, si toute sa carrière était celle-là, si toute sa trajectoire était celle-là, je crois qu'au fond, Cérezuelo note quelque chose de très pertinent, mais il ne le creuse pas. Enfin, c'était un article critique, donc il n'a pas de raison de le creuser. Il voit bien qu'il y a une sorte de disjonction. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est que les personnages de Desplechin sont des disjonctions qui se tiennent ensemble. Pour le même film, Bégodeau écrit la chose suivante dans Transfuge. Il écrit « Il serait tellement plus pratique que les choses soient ce qu'elles sont, que le réel soit réel. Hélas, il y a un principe d'incertitude. » C'est ça, les personnages de Desplechin, et plus le temps passe, plus ils sont sériels, plus il y a un principe d'incertitude. Ils sont toujours marqués de ce principe d'incertitude. Alors, effectivement, on trouve cette idée que fondamentalement un personnage, ça n'est pas une psychologie, c'est d'abord un nom. Et donc, si on a cette idée en tête, il ne faut pas prendre pour du hasard le fait que Paul Dédalus revienne. Ça confirme mon hypothèse que c'est toujours le même. C'est d'abord un problème de nomastique. Après, on verra que c'est un problème de figuration, mais c'est un problème de nomastique. Puis il y a une deuxième chose qui m'a intéressé. J'avais depuis longtemps l'intuition que quelque chose se jouait d'un rapport entre Desplechin et pas du tout Descartes, alors qu'il n'arrête pas de citer Descartes, mais avec un philosophe presque contemporain de Descartes. Ici, vous ne lisez peut-être pas, mais c'est marqué Leibniz. Ça m'intéresse beaucoup que ce soit Leibniz. J'avais l'idée depuis longtemps et je vous assure que c'est il y a 3 semaines quand je finissais de penser mon intervention que j'ai trouvé cet indice qui corrobore un peu mon idée. En plus, ensuite, vous voyez pas, mais c'est marqué possible, impossible, donc ça m'intéresse beaucoup. Leibniz est l'inventeur d'un concept fondamental qui se nomme, je le cite, c'est le concept d'incompossible. Tout à l'heure, tu parlais de théosophie. Leibniz a eu un problème. À un moment, il a fallu justifier Dieu, non plus sur le plan théologique, mais sur le plan philosophique. Et justifier Dieu, c'était... Il y a une seule question qui se pose au XVIIe siècle. Pourquoi il y a le mal? Voilà. Bon. La réponse de Leibniz, que Voltaire va railler bêtement, c'est... on est dans le meilleur des mondes possibles. Ah, ce qui se maintient. C'est un peu sévère, mais... On est dans le meilleur des mondes possibles. OK. Sauf que, si on est dans le meilleur des mondes possibles, ça veut dire que Dieu a été capable de calculer quel était le meilleur des mondes possibles. Ça veut donc dire que dans l'entendement divin, il y a des mondes possibles, des mondes possibles mais qui n'ont pas été réalisés. Et reprenons cette idée, je cite Leibniz. Adam a péché, mais son contraire, Adam non-pécheur, n'est pas impossible. Il n'est pas contradictoire en soi. César a franchi le Rubicon, mais César aurait pu ne pas franchir le Rubicon. Paul Dédalus a fait une thèse de philosophie, ça c'est pas Leibniz qui l'écrit. Et il enseigne à Nanterre. Et Paul Dédalus a étudié l'anthropologie et a fait des fouilles en Iran. Dans les deux cas, ces Pauls-là ne sont pas contradictoires. Ce qui est contradictoire, c'est qu'ils ne peuvent pas vivre dans le même monde. Et c'est là que Leibniz invente le concept de compossible. Au fond, César aurait pu ne pas franchir le Rubicon, certes. Il y a un monde où ça existe, mais ce n'est pas le nôtre. Dans le nôtre, César a franchi le Rubicon. Alors, on se retrouve devant un problème fondamental. Comment ça se fait qu'on a deux Pauls? Est-ce qu'ils ne vivent pas dans le même monde? Est-ce que ce n'est pas les mêmes pôles? On a un problème vraiment fondamental. Alors, la solution de Leibniz, je ne vous la donne pas. Enfin, si, la réponse de Leibniz, elle est très belle, mais ce n'est pas celle de Desplechin, quoique, on pourrait se demander. La réponse de Leibniz, c'est que Adam aurait pu ne pas pécher. Seulement, voilà, dans le monde où Adam ne pêche pas, ce monde-là, il est moins bien que le nôtre. Donc, il est très bien que Adam ait péché parce que, au fond, le meilleur des mondes, c'est le meilleur des mondes possibles, là où Adam a péché. La question que je pose, c'est celle-ci. C'est quoi le monde possible dans lequel vit Paul Dédalus? C'est quel monde? Est-ce que c'est nécessairement le même monde à chaque fois pour tous les pôles? Ou est-ce qu'au fond, il y a plusieurs mondes à distinguer? Alors, c'est d'autant, la question se pose d'autant plus que, au fond, Paul, il a toujours des problèmes d'identité, toujours. Paul, il a d'autant plus de problèmes qu'il a vraiment des doubles dans son propre monde. Il meurt et il revit. Ça lui arrive plein de fois. La question de la sérialité se pose d'autant plus qu'il faut savoir à quel pôle on a affaire et on n'est jamais sûr de savoir à quel pôle on a affaire. En fait, ce que j'essaye de suggérer ici, c'est l'idée que y a un concept qui peut nous permettre de penser Paul, c'est le concept de virtuel. Alors, ce concept de virtualité, il faut le distinguer du concept de possible. Alors là, il me semble important de citer cette source un peu délicate, mais je me réfère essentiellement aux pages que Deleuze développe dans Le Pli sur la question du virtuel et du possible. Et on retrouve aussi ça dans son dialogue, dans le dialogue justement avec Claire Parnet. Deleuze considère que le possible s'oppose au réel, vraiment. Mais ce n'est pas le cas du virtuel. Le virtuel ne s'oppose pas au réel, dit Deleuze, enfin montre Deleuze. Et quelle est la particularité du virtuel? C'est que, au fond, la différence entre possible et réel, c'est que le réel a une densité, pourrait-on dire, de réalité, un poids ontologique plus important. Deleuze dit, le virtuel, c'est pas le problème. Le problème du virtuel, c'est qu'il existe, mais il s'actualise de manière différenciée, c'est tout. Or, il me semble que comprendre Paul Dédalus, c'est comprendre qu'il est toujours environné de ses propres virtualités. Il existe, il s'actualise, mais au fond, il s'actualise de manière toujours différente. Jamais c'est complètement saisissable, même pour lui-même, mais ça lui pose forcément un problème, vu qu'il ne sait jamais quelle actualisation il est. Donc même quand il meurt, en fait, il ne meurt pas, Paul. C'est une de ses virtualités, c'est une de ses figurations virtuelles qui meurt. Or, Deleuze ajoute, en plus, toute actualisation, donc c'est le passage, c'est la manière dont le virtuel existe et se figure pour nous, Deleuze ajoute, toute actualisation est une forme de création, au fond. Et c'est là que c'est intéressant, enfin, c'est parce que ce sont des idées qui ont déjà circulé que je ne fais pas droit à ça, mais il faudrait travailler, enfin, ça a déjà été fait de manière très brillante souvent, et dans la revue Eclipse en particulier, par d'autres que moi, sur l'action de l'autofiction. Paul, il ne cesse pas de se mettre en scène. Il ne cesse pas de s'inventer. Alors, c'est le début de comment je me suis disputé. C'est aussi là, dans Trois souvenirs de ma jeunesse. Il faudrait travailler sur cette dimension-là. Paul, pour être sûr d'actualiser ses virtualités, il se met en scène. Il s'invente, en somme. À cela, il faudrait ajouter aussi, là aussi ça a été fait, donc je ne vais pas sur ce terrain-là, dans ce processus de sérialité du personnage, l'importance des miroirs chez Desplechin. On n'arrête pas de mettre en valeur sa propre actualisation pour se distinguer des autres images. Donc, dans Trois souvenirs de ma jeunesse, c'est Esther qui se regarde dans un miroir puis qui nous regarde ensuite. Paul ne cesse pas de le faire aussi dans Un conte de Noël, le petit Paul. Donc, au fond, les miroirs sont des manières de distinguer l'image virtuelle et l'image actuelle, soi-même et soi-même comme un autre. Je ne le fais pas parce que j'ai une autre solution à proposer, au fond. Cette autre solution, c'est l'idée que il s'agirait de comprendre Paul, Ismaël et Esther sous le mode des puissances du faux. Ce que je veux dire par là, c'est que... alors ça, c'est aussi une distinction de Deleuze hein, qu'on trouve dans Image-Temps. Deleuze montre que les puissances du faux, c'est l'idée que on doit distinguer deux régimes de fiction. L'un qui est fondé sur la possibilité de la description. On pourrait épuiser un personnage en le décrivant absolument. On pourrait épuiser un film en s'axant uniquement sur sa dimension fictionnelle, sa narratologie. Et de l'autre côté, il y aurait une puissance qu'il appelle imaginaire, puissance du faux, c'est vraiment le titre qu'il emploie. Et dans cette logique-là, dans cette poétique-là, passé et présent se confondent, fiction et réalité se confondent, et Desplechin, il s'inscrit complètement là-dessus. Il suffit de voir, par exemple, comment il peut utiliser des objets de l'aimer, son documentaire sur sa tante, comment il les intègre à l'intérieur de ses propres fictions depuis, aussi bien dans Un conte de Noël que dans Trois souvenirs de ma jeunesse, on retrouve des éléments qui relèvent du documentaire et qui, à un moment, sont transfusés dans la fiction. Donc, il fait ça tout le temps. Or, ce qui m'intéresse davantage, c'est que dans Les puissances du faux, Deleuze a une idée fondamentale. Alors que dans le premier régime de fiction, appelons-le Les puissances du vrai, ce qui compte, c'est l'identification. Il a cette formule qui prend à Fichte, « moi égale moi ». Dans Les puissances du faux, ce n'est pas du tout le cas. « Moi » est égal à une multiplicité. Et au fond, alors on pourrait gloser autour de... J'ai découvert hier qu'il y avait des guerres rimbaldiennes sur le jeu est un autre. Et effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Paul est un autre, toujours. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'agit de resserrer, de tout ramener à l'identification. Au contraire, il faut prendre Paul justement dans cette altérité-là. Le comprendre à partir de cette altérité-là. Pardon. Donc, ce qui m'intéresse au fond... Alors oui, non, je ne vais pas le dire, ça fait... Si je le dis quand même. Ce qui gêne quand on voit la première fois les films de Despéchés ou qu'on voit son œuvre en entier, c'est que quelque chose nous manque. Et quelque chose nous manque, c'est qu'on aimerait bien ce processus de synthèse qui permet de synthétiser le sujet, le moi, l'identité une. Sauf que ça n'arrive pas. Alors, je pense à Foucault qui dit que, justement, il s'agirait de s'intéresser à des poétiques qui ne relèvent pas de cette synthèse du sujet. Alors là, il n'y a pas de synthèse du sujet. Je trouve que ça rejoint un peu ce que tu disais sur... Proust hier, enfin, ça laisse insatisfait parce que la synthèse n'a pas vraiment lieu. Donc moi, je vais maintenir que cette synthèse, elle a lieu, mais pas là où on croit. Alors, mon intuition est la suivante. Il s'agit de prendre un point de vue perspectiviste. Exactement ce que Deleuze dit du baroque à partir de Leibniz, c'est une affaire de perspective. Alors, là aussi, c'est pas moi qui l'invente, c'est Ismaël, cette fois, qui l'invente. C'est un extrait vers la fin des fantômes Ismaël. Et je ne comprends pas l'extrait en dehors de mon interprétation, je ne vois pas quel sens ça a dans le film, d'un point de vue diégétique.
1437, 1434, l'invention des perspectives en Occident, au nord et au sud. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Regarde, c'est pas les mêmes perspectives. Ils croyaient qu'ils avaient un seul système universel. Mais en fait, il y en avait deux. Entre la Hollande et l'Italie, ça crée une sorte de champ de force, mais inouï. Une haine inouïe qui écrase tout. Je suis pas le genre de livre que tu peux me faire chier.
Je laisse à un exégète la définition de ce que c'est qu'un juif qu'on peut faire chier, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas lui. Alors, vous avez reconnu les deux tableaux, alors les époux Dolfini d'un côté, et puis... J'ai vérifié, c'est une annonciation de Fra Angelico. Il se trompe, c'est 1430, mais bon, vérifier, mais ce n'est pas 1434. Donc, ce qui m'intéresse là, vraiment diégétiquement, je demande à quiconque de savoir quoi faire de ça dans le film, je ne suis pas sûr de comprendre. Mais je comprends moins une chose. Plutôt, je le comprends de cette manière-là. Je crois que, d'une certaine manière, on peut interpréter ce passage comme un symptôme. Il s'agit de relire à la fois les films de Despéchés, peut-être ces personnages, à partir de l'idée que... ça va dépendre de quelle perspective on choisit, véritablement, pour relire et interpréter les personnages. Donc, c'est une manière pour moi d'amener à un second point qui me semble fondamental. Appréhender les personnages de Despéchés, c'est choisir à la fois de découvrir par quelle figuration on les comprend et par quelle perspective ils nous sont donnés. Alors, je cite Despéchés, qui écrit ceci et qui rejoint cette idée. Le premier, alors c'est dans le numéro 52 de Transfuge, Despéchés écrit ceci. Le premier Paul, il parle de celui de Comment je me suis disputé, était plutôt bon. Lui n'est pas si brillant, donc il parle de celui de Trois souvenirs de ma jeunesse. Ça m'intéressait de revisiter le couple Paul-Esther, une jeune fille de province, un jeune homme qui devient parisien. Paul n'est pas exactement le même, pourtant on retrouve des traits communs. Et il ajoute un peu plus tard, l'entretien, je crois qu'au cinéma, les objets, les noms, les mots scintillent de signification. Cette idée qu'à partir du moment où c'est filmé, s'agit de savoir de quel scintillement il est question. Alors, quand j'ai dit que nous manquait quelque chose qui relèverait d'une sorte de travail de synthèse du sujet, voilà ce que je propose. Et puis on n'arrête pas de dire que ce qui détermine ces personnages, c'est leur scepticisme, leur incertitude à savoir ce qu'ils sont, mais en fond, s'ils sont, voir si quoi que ce soit est. Enfin, il y a des scènes entières qui sont vraiment des manifestes figuratifs de philosophie dans Esther Kahn ou autre. Je maintiens qu'en fait, ils donnent des réponses. Mais il ne donne pas les réponses là où on croit. Il les donne sur le plan plastique, sur le plan figuratif. Des choses qu'il ne convoque jamais, sauf peut-être là, quand j'ai vu la séquence et j'ai trouvé un texte qui en parlait un peu en ces termes, j'ai immédiatement pensé à Abby Warburg, vraiment. Alors, je vais expliquer pourquoi j'ai pensé à Abby Warburg et à sa question du pathos formel et des survivances. Je vais essayer de justifier ça. Alors, il y a un deuxième élément qui m'incline à penser que penser les personnages des Pléchins, c'est les penser suivant cette idée perspectiviste. C'est une séquence qui intervient juste après dans Les fantômes d'Ismaël. Je vous montre.
Et il se met à parler. Elles disent quoi ? Que sur un plan figuratif. Voilà. Oui. C'est des images compressées, très peu d'images, toujours les mêmes. Sa famille, son chien, sa mère, son frère qu'il haïssait. La vendormiste, ce sont toutes ces femmes qu'il n'a pas pu toucher. Pas des Krasner, des femmes douces, tendres, tétons, épaules, lèvres, vagins. Ce sont 30 nus féminins collés ensemble. C'est une reprise des Demoiselles d'Avignon. Et les deux types.
On parlait de cubisme, ce lien indéniable. Alors, moi, ça peut renvoyer à la figure in the carpet de Henry James. Il s'agit de trouver la figure dans le tableau. C'est une possibilité, elle me semble indéniable. Mais il me semble qu'on peut en déployer une autre, en fait. Mon idée serait plutôt la suivante. À partir de là, c'est un peu comme une leçon du regard que nous donne Desplechin. Il nous demande d'apprendre à voir, d'apprendre à regarder. Au fond, Pollock est figuratif, on n'a juste pas vu que... il fallait adopter un bon point de vue pour savoir qu'il était figuratif. Il fallait déplier l'image. Je reviens au pli, le baroque, Deleuze et Leibniz. Enfin, il y a vraiment cette idée. Déplier l'image et la figure va naître de cette capacité à déplier. Cela m'amène justement à cette idée. Il me semble que comprendre les personnages de Desplechin, c'est comprendre qu'au fond, ils sont d'abord des circulations de gestes et des survivances. Ce à quoi confie l'identité des personnages, c'est vraiment aux images de l'art. C'est l'image de l'art ce sont les images de l'art qui seront dépositaires de l'identité des personnages. Et chaque personnage va s'identifier à partir de quoi ? Me semble-t-il, à partir de tout un réseau de références mythologiques, bibliques, mais aussi d'un réseau d'images. Et confier aux images de l'art l'identité des personnages, c'est considérer cette identité de manière réticulaire. Ce qui fait que ce qui va définir Paul, c'est pas sa psychologie, c'est pas son monde directement, sont à peine ses actions. Ce sont des gestes qui lui viennent d'ailleurs. Paul, il reproduit dans plein de films exactement les mêmes gestes. Tout se passe comme si était transfusé en Paul des images archaïques qui viennent de l'art et qui le déterminent à agir. Quel que soit Paul, de comment je me suis disputé jusqu'à trois souvenirs de ma jeunesse, on retrouve cette circulation d'images fondamentale. Alors ça marche sur Paul, mais ça marche sur d'autres. Alors je vais vous montrer deux extraits et après je développerai mon idée. Alors ces deux extraits, ça ne parle pas de Paul pour commencer, ça parle de... je vais vous montrer Esther. Deux fois. La Esther de Comment je me suis disputé et la Esther de Esther Kahn. A priori, rien ne les rassemble. En fait, si. Je vais essayer de justifier ma position. Si je refais le point diégétique, Esther vient d'être larguée par Paul. On ne la voit plus, elle disparaît pendant le film assez longtemps, une demi-heure quasiment en temps du film. Voilà ce qu'on peut commencer à en dire. Tout se passe comme si une charge affective, une charge pathétique déterminait un geste. Ici, une rétention, voire un symptôme, une aphasie. Incapable de parler, ou presque, Esther ne peut pas exprimer. Ou plutôt, elle exprime en n'exprimant pas. Je lis une citation de Desplechin. Desplechin raconte que quand il a fait lire le scénario de « Comment je me suis disputé à une écrivaine », celle-ci lui a, en l'occurrence Virginie Linhart, elle lui a dit que, je cite, « Tout ça c'est très bien, je sais ce que pense Paul au niveau du scepticisme, mais Esther, elle en pense quoi de tout ça ?» Réponse de Desplechin, je lui ai dit « Ce sera le film d'après, Esther Kahn. » Entendu, le lien se fait au niveau du scepticisme. En fait, il y en a un autre de lien. À la fin du film, Esther va jouer pour la première fois, sauf qu'elle voit son ancien amant avec sa nouvelle maîtresse entrer dans la salle. J'aime à croire qu'il y a une sorte de vie des images qui dépasse largement leur cadre diégétique. Tout se passe comme s'il y avait une forme de communication, de contamination entre Esther et son aphasie et Esther Kahn et son aphasie. D'autant que l'actrice qui produit cette aphasie, c'est Emmanuelle De Vos, qui est exactement la même. Donc, tout se passerait comme si la sérialité, c'était de contaminer par des formes, par des gestes, par des figures pathétiques, un personnage vers l'autre, enfin, qui va d'un personnage à l'autre. C'est intéressant d'imaginer... Enfin, Esther, dans l'Ancien Testament, je ne vais pas raconter son histoire, mais l'une des méthodes d'interprétation de la Bible s'appelle le Midrash, et dans le Midrash, Esther, ça veut dire caché. Donc, tout se passe comme si Esther cachait quelque chose qu'elle ne peut même pas dire. Dans les deux cas, elle ne peut pas le dire. Et ça fonctionne de cette manière-là. Formule de pathos qui vient d'un film à un autre, qui se transfuse d'un film à un autre. Esther, elle est d'abord définie par son aphasie. Et cette aphasie, c'est une sorte de paralysie qui est d'abord un geste, enfin un geste d'impuissance essentiellement. Alors des gestes d'impuissance de cet ordre-là, on peut les déployer. Alors je vais faire on peut faire un détour. Formule de pathos, c'est d'autant plus vrai, me semble-t-il, qu'il y a comme une inversion temporelle, c'est-à-dire que Esther, interprétée par Emmanuel De Vos, qui vit dans un monde à peu près contemporain d'une autre, envoie dans une Esther du 19e siècle une figure qui la contamine aussi. Alors, il y a une autre idée qui m'intéresse, c'est que si on fait le détour par Erik Auerbach, Auerbach développe l'idée que la notion de figura signifie aussi, à partir de Saint-Augustin, l'idée de prophétisation. Moi, il me semble qu'Esther, de comment je me suis disputé, est comme la prophétisation de l'Esther Kahn qui viendra après dans l'œuvre de Desplechin, même si elle vient avant chronologiquement dans l'histoire de... Comme Moïse était prophétisait le Christ, comme l'Arche de Noé était la prophétisation de l'Église, et au fond, Esther est la prophétisation d'une autre Esther à chaque fois. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour finir, parce qu'il y a des choses que je vais vous montrer essentiellement plus que dire. Alors, il y a des gestes pathétiques souvent, on en retrouve tout le temps. Alors, par exemple, ça, c'est Ismaël. Ismaël, ça, on ne peut pas dire qui il est. On peut juste dire qu'il est toujours dans la même gestuelle. Alors, deux fois, dans Roi Zéren, on l'attache. Dans Fantôme d'Ismaël, on l'attache encore. Donc, c'est un geste pathétique. Il est passif, mais c'est un geste pathétique qui circule et qui le définit. Il y a une autre formule de pathos qui définit cette fois Paul. C'est ça. Paul, il tend des couteaux. Souvent. Ça, c'est dans le tout début de Trois souvenirs de ma jeunesse. Et puis plus tard, ou plutôt plus tôt, Paul Dédalus qui menace sa maman. Alors c'est encore une fois un acteur différent qui menace sa maman. Ce qui définit Paul, c'est ce retour du refoulé. Alors c'est pas n'importe quel geste, c'est une formule particulière, c'est un matricide, c'est au fond assez rare hein, même dans la peinture, on en trouve peu. Mais c'est un geste qui revient très régulièrement. Alors je reviendrai encore sur cette définition pour les moins sensibles à la question. Abby Warburg a déployé l'idée de pathos formel. De formules de pathos, et cette idée est la suivante. Au fond, il y aurait comme des survivances gestuelles qui traverseraient l'histoire de l'humanité, qui ne sont pas quelque chose de fixe, hein, au fond, qui viennent de différentes époques, qui sont des sortes d'anachronismes qui animent les images, et qui prennent des formes corporelles, essentiellement. Alors, Warburg a travaillé sur la présence de l'antique dans la Renaissance, mais nous, on peut utiliser le concept tout à fait autrement. Alors, commençons par là. Premier plan sur une gravure qui montre Hercule maîtrisant le taureau. Vous avez vu, il y a le plan descend légèrement et va jusqu'au répondeur où on entend la voix d'Ismaël. Mon interprétation, en fait, c'est la voix d'Ismaël qui est contaminée par le geste héroïque d'Hercule. Il tient quoi dans la main ? Un burger. Il y a quoi dans un burger ? C'est une vache. J'aime bien l'idée qu'en fond, il redéploie cette idée à son échelle même d'un héroïsme qui transporte Hercule en Ismaël et le taureau en bœuf. Et vous allez voir, après, ça se vérifie. Le burger n'a aucun sens d'un point de vue diégétique. Et regardez ce qu'il en fait. Formule de pathos, encore une fois, qui circule.
Effectivement, je refuse.
Monsieur, ça fait des mois que les médecins vous ont envoyé la première convocation.
Je ne suis pas sourd, mais j'ai rien reçu.
Ah si, le recommandez ou le merci ?
Je ne dirai pas.
Vous avez vu, il pose ce burger, tend le même bras qu'Hercule tend pour tenir le taureau, sauf que bon, c'est Ismaël, il est aussi héroïque que vous et moi, c'est-à-dire qu'au fond, pas du tout héroïque. Il réduit son geste à un animal déjà mort, sans la moindre puissance. On pourrait même aller plus loin, c'est même lui qui après jouera le rôle du taureau, vu qu'il va se faire maîtriser par les infirmiers. Inversion, exactement celle que décrit Warburg. Il peut y avoir des variations d'intensité et de sens. Voilà. Alors j'ai presque fini, je tiens juste à montrer un extrait qui laisse à penser ce que j'avance. Au fond, ne reste chez les personnages qui définissent Paul, toutes ces occurrences, que des gestes et des affects. Et au fond, Paul nous le dit à la fin de Trois souvenirs de ma jeunesse, ce qui définit Paul en somme, ce sont des affects qui trouvent à se gestualiser dans des formules déjà existantes, qui ne viennent pas de lui, mais qui le hantent et qui l'habitent. C'est le cas pour Paul, c'est le cas pour Esther. Et au fond, il faudrait faire une archéologie des autres. Mais je pense que c'est là que se situe l'idée de... C'est par la virtualité que la sérialité se déploie chez des pêcheurs. Merci.